RMC Motors avec Motorsport TV, Jean Lecroix.
Et bonjour à tous, ou plutôt rebonjour à tous. Si vous étiez avec nous ce matin à partir de 7h, eh bien c'était le Grand Prix d'Australie, le premier Grand Prix de la saison 2018 qui s'est déroulé dans l'Albert Park de Melbourne avec une belle victoire, et vous le savez certainement évidemment, de Sébastien Vettel et sa Ferrari juste devant la Mercedes de Lewis Hamilton. On va revenir sur tous les événements de ce Grand Prix en compagnie d'Adrien Tambay, bien sûr. Salut Adrien.
Salut Jean-Luc, salut à tous.
Et puis tout de suite, vous le savez, dans Motors, eh bien il y a de belles rubriques. On va commencer par dans le rétro, et dans le rétro, on va voir précisément ce Grand Prix de Formule 1. Vous restez avec nous.
RMC Motors, dans le rétro.
C'est parti, Lewis Hamilton pour l'instant a réussi son envol, il va devoir résister aux attaques de Kimi Raikkonen et de Sébastien Vettel. C'est Max Verstappen qui également a pris un bon départ, mais Lewis Hamilton avec beaucoup d'autorité a conservé sa première position au premier virage. Et attention à l'attaque de Kimi Raikkonen qui va aller chercher Lewis Hamilton. Les deux voitures se sont frôlées mais le Britannique est toujours en tête. Sébastien Vettel donc, dont on pensait qu'il ne serait qu'un leader provisoire comme il était le seul à ne pas s'être arrêté, mais qui à la faveur des événements de course et de cette virtuelle safety car s'est donc emparé du leadership de ce Grand Prix.
Voilà le public qui se lève maintenant. Sébastien Vettel qui va remporter le premier Grand Prix de cette saison 2018 aux commandes de la Ferrari. 48e victoire en Grand Prix pour Sébastien Vettel. Le deuxième, eh bien, c'est Lewis Hamilton qui a laissé un petit peu filer, qui termine à 5 secondes du vainqueur. Et puis on trouve ensuite l'autre Ferrari de Kimi Raikkonen au troisième rang.
Grande ragazzi, grande, grande gara, grazie. Bella strategia. Nice one all together. We're getting there. Still have some homework to do. We're getting there.
Et voilà, c'était ce matin sur RMC, ce premier Grand Prix de la saison 2018 à Melbourne. C'est la tradition maintenant, vous le savez, depuis 1985, eh bien, on vient en Australie. C'était un Grand Prix qui fermait d'ailleurs la saison dans un premier temps, et puis elle l'ouvre depuis qu'on est passé à Melbourne, je vous le disais, dans ce parc, l'Albert Park, qui est au sud de Melbourne, et où on a vu une belle bataille. Alors Adrien, on y revient évidemment, on a entendu la Sébastien Vettel, on va un petit peu retrouver les deux hommes forts de la saison dernière, hein, puisqu'on rappelle que la bataille pour le titre, elle s'est déroulée vraiment de manière très serré jusqu'au Grand Prix de rentrée, c'est-à-dire jusqu'à Spa-Francorchamps et même encore un peu après, avec un avantage au pilote Ferrari, avantage immédiat d'ailleurs pour la Ferrari.
Oui, il y a eu plusieurs phases l'année dernière, effectivement, avec une Ferrari qui était tout de suite mieux en condition de course, notamment avec les pneumatiques, la mise en température des pneumatiques qui faisait défaut à la Mercedes, toujours des problèmes d'utilisation de ces pneumatiques tendres, surtout dans des températures élevées. Cette année, Mercedes a, semble-t-il, réglé ses soucis, et il les avait réglés d'ailleurs à la fin de l'année dernière. Absolument, et c'est pour ça que Mercedes avait réussi à faire tourner,
à prendre le pas sur
Sébastien Vettel et à mettre la pression en fait sur Ferrari, qui avait dû même prendre tous les risques au niveau technique. On avait même vu des problèmes de fiabilité sur la monoplace de Sébastien Vettel à la fin de l'année dernière, et là effectivement les deux écuries ont bien bossé pendant l'hiver. Tout le monde s'est un peu rapproché, y compris les autres équipes, et on se retrouvait avec un Lewis Hamilton toujours flamboyant en qualification. Et en course également, il a fait le boulot aujourd'hui. C'était un peu les conditions de course et ce virtuel safety car qui ont fait pencher les choses en la faveur de Sébastien Vettel.
Absolument, Adrien. On va reprendre le déroulement, si vous le voulez bien, de ce week-end très rapidement, notamment la partie qualification où Lewis Hamilton a sorti dans la deuxième partie de la Q3, un tour de folie vraiment, 1 minute 21 secondes, 164 millièmes, repoussant le deuxième, Kimi Raikkonen avec la Ferrari, à 684 millièmes, c'est énorme, hein, près de 7 dixièmes, alors que justement, jusque-là, Adrien, on avait 4 pilotes en 2 dixièmes de seconde seulement, et nous, on était les premiers à dire, bah ça y est, il y a un resserrement des forces en présence, là, c'est très clair, jusqu'à cette attaque d'Hamilton.
Et oui, et honnêtement, on n'a pas encore la réponse à cette question, savoir si, effectivement, sur ce dernier run de Lewis Hamilton, c'est la voiture, la Mercedes, qui lui a permis d'aller 6 dixièmes plus vite que lors de son premier run, ou si il avait tout simplement fait une petite erreur lors de son premier tour et que là il avait réussi enfin à mettre tous les secteurs bout à bout. On a parlé d'ailleurs en conférence de presse d'un bouton magique. Vous savez que
on va en reparler.
Je vais un peu vite en besogne.
Non, mais tu as raison.
Effectivement, la Mercedes semble être une fois de plus la voiture la plus performante en qualification. En tout cas, on le vérifiera dans le futur avec un Valtteri Bottas qui était parti à la faute et qui nous a pas permis de vérifier ce que la Mercedes pouvait le faire avec quelqu'un d'autre que Lewis Hamilton.
Absolument, en matière de qualification, puisque comme tu le rappelais, Valtteri Bottas est parti très loin sur la grille. Je vous propose d'écouter d'abord le petit échange un peu tendu entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. C'était justement après les qualifications, puisqu'on parle d'un bouton miracle qui permettrait au moteur Mercedes de délivrer plus de chevaux, notamment d'une injection d'huile qui serait d'ailleurs limitée, notamment en course, puisque la FIA a édicté un règlement limitant cette consommation d'huile entre guillemets à 0,6 litres. Écoutez ce petit échange entre justement Hamilton et Vettel. C'est Hamilton qui réplique à Vettel.
Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de mode party. J'ai utilisé le même mode en Q2, aussi à la fin de la Q3. Il n'y a pas un bouton magique autre que le mode déjà engagé.
Qu'est-ce que tu étais en train de faire avant?
Je voulais réaliser un beau chrono sur ce tour et retirer le sourire de ton visage.
Bon, ça fait partie effectivement. Ben, on va dire là aussi, précisément en Formule 1 comme ailleurs, il faut de grands adversaires. On a deux quadruples champions du monde, faut-il le rappeler. Probablement, enfin il faut pas exclure les autres du jeu d'entrée, on est qu'au premier Grand Prix, mais l'un des deux peut-être va décrocher ce cinquième titre qui le mettrait au niveau de Juan Manuel Fangio. C'est évident que la bataille psychologique, elle est également engagée, Adrien.
Effectivement, Jean-Luc, c'est l'intox dès le premier Grand Prix, dès la première qualification. C'est Vettel qui titille un peu Lewis Hamilton sur sa réponse, sur sa langue de bois concernant ce fameux bouton magique, en lui disant bah tout simplement, mais si t'as réussi à aller 6 dixièmes plus vite sur ton deuxième tour, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu foutais sur ton premier tour en fait. Et Lewis Hamilton le taquine en retour à une très très belle réponse et ça montre à quel point la rivalité est forte entre les deux pilotes et l'envie de revanche de Sebastian Vettel et l'envie pour Lewis Hamilton d'enfoncer le clou dès le début de la saison.
Et puis on se souvient de ces frictions effectivement, notamment le fameux Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, la neutralisation, effectivement le fait que Lewis Hamilton casse sa vitesse d'un seul coup, Vettel le prend comme une agression. Alors, on va pas re-raconter l'histoire que vous connaissez très bien, mais c'est de là que part effectivement une déstabilisation, peut-être plus pour Vettel d'ailleurs paradoxalement, qui après met un coup de roue carrément à Hamilton, que pour Hamilton, puisque d'ailleurs le titre revient à Hamilton. Je vous propose aussi de revenir sur le déroulement, si vous n'étiez pas avec nous jusque-là, de ce Grand Prix avec un départ correct de Lewis Hamilton. On l'a pas toujours vu effectuer des départs flamboyants, mais là vraiment il a assuré la partie. Et puis Raikkonen qui a tenté dans le premier tour, Adrien, une attaque qui aurait pu passer sur Hamilton, mais qui n'est pas passée, parce qu'Hamilton a compris que dès le premier tour, c'était le tournant du match.
Quand on voit la physionomie ensuite de la course, on comprend bien que les pilotes savaient à quoi s'attendre et que les positions étaient chères lors de ce départ. Les dépassements très très compliqués sur ce circuit de Melbourne. Donc forcément, si Kimi Raikkonen avait la possibilité de passer en tête au départ, il l'aurait fait. Il a tout essayé. Hamilton a bien sûr, avec toute son expérience, bien géré la situation. Et puis ensuite, il a fait sa course et il l'a construite de la meilleure des manières. C'est Kimi Raikkonen qui avait dicté la stratégie, qui s'était arrêté en premier.
Absolument. Au 18e tour.
Au 18e tour. Et c'est Mercedes qui a protégé et répondu à Kimi Raikkonen en faisant le premier arrêt de Lewis Hamilton dans la foulée.
Et pour Chaussé et Adrie, ça a été une surprise, y compris pour nous. Chaussé des pneumatiques soft. Alors on rappelle que l'ensemble de la gamme Pirelli est plus tendre que l'an dernier. Il y a 7 types de gomme pour le sec, ça devient infernal, plus les deux gommes, les intermédiaires et les wet, ça fait 9 qualités de gomme. On va s'intéresser aux pneus pour le sec, aux slick si vous voulez bien. Et là on n'avait pas pris les gommes les plus tendres, les hyper tendres, on les appelle comme ça. Donc Pirelli avait emmené les super soft, les ultra soft et les softs. Donc, comme tu viens de le dire, au 18e tour, on arrête Raikkonen. Pour couvrir la stratégie, on arrête Hamilton derrière. Et puis, on laisse Vettel en piste. Et on joue bien, on le sait pas encore, mais on joue très bien chez Ferrari. Puisque, ensuite, il y a une neutralisation qui permet à Vettel, finalement, de prendre le commandement à la faveur de cette neutralisation, passant par la voie des stands. Et là, on ne le sait pas à l'époque, mais la partie est jouée, finalement.
Bien sûr, c'est le luxe qu'avait Ferrari à ce stade de la course, d'avoir deux pilotes à la chasse de Lewis Hamilton, Sébastien Vettel et Kimi Raikkonen, contrairement à Mercedes qui avait un peu perdu la veille en qualification Valtteri Bottas. Donc ça aurait été bête de mettre tous ses œufs dans le même panier, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont gardé Vettel en piste en espérant soit être sur une stratégie différente. On sait pas ce qui serait passé.
Advenu s'il y avait pas eu la
neutralisation, le virtual safety car, parce que ouais. Ferrari a réagi en fonction de ça très bien et a fait l'arrêt de Sébastien Vettel. Peut-être sans ce virtual safety car, peut-être que Sébastien Vettel aurait duré beaucoup plus longtemps et aurait chaussé un train de pneus différent. On ne sait pas, et c'est sûrement le plan B, la première stratégie imaginée par Ferrari. En tout cas, c'est le bon coup joué aujourd'hui par Ferrari, et la réussite était de leur côté.
Très bon coup. Alors on était à peu près à la mi-course, hein, puisqu'on a relâché les pilotes au 32e tour sur les 58 à parcourir dans le cadre de ce Grand Prix. Et là, on se disait qu'Hamilton, évidemment, avec peut-être la supériorité de la Mercedes, allait pouvoir, en tout cas, placer des attaques sur Vettel. Et malgré tout le talent du quadruple champion du monde britannique, jamais il n'a placé une véritable attaque. D'autant qu'à un moment, il a allumé un pneu avant. On l'a vu, le pneu avant droit, ce qui lui a coûté 2,5 secondes à peu près. Et puis jamais, véritablement, après, il n'a pu rentrer dans la bulle aérodynamique. Alors, c'est un des problèmes. On rappelle, Adrien, qu'il y avait 3 zones de DRS, justement. On s'est demandé, nous aussi, si cette 3e zone n'allait pas permettre d'avoir un Grand Prix plus disputé. Plus de dépassements, on peut dire que ça n'est pas le cas.
On le savait, hein, Melbourne est un circuit où il est très très compliqué de dépasser. Il y a souvent des courses sympas, mais c'est souvent parce que les départs ils sont compliqués. Il y a des incidents de course, des safety cars, des incidents parce que c'est la première course. Tous les pilotes sont un peu excités, mais là oui, pour dépasser c'était compliqué pour tout le monde, y compris pour Lewis Hamilton qui semblait avoir plus de performance que la Ferrari dans sa Mercedes, et on l'a vu vraiment faire le maximum, perdre à un moment donné l'avant de sa voiture lors d'un freinage, bloquer la roue, faire une excursion dans l'herbe, et effectivement c'était pas possible. On a vu aussi Max Verstappen défier les éléments en allant en fait défier ces perturbations aérodynamiques et essayer de se rapprocher pour doubler, mais c'est très compliqué sur ce circuit.
Alors je vous rappelle bien sûr que RMC est le diffuseur officiel du championnat du monde de Formule 1 en termes de radio. C'est la radio officielle du Grand Prix de France de F1. On aura l'occasion, Adrien, d'en reparler tout à l'heure dans la troisième partie de ce Motors, avec Gilles Dufaigneux d'ailleurs, qui est le directeur général de ce Grand Prix de France, qui va nous donner des infos. Et vous le savez, jusqu'à cet événement qui se déroulera les 23, 24 et 25 juin, toutes les semaines, vous aurez toutes les infos dans Motors, les coulisses, et je peux même vous dire que vous pourrez gagner des places, donc ça vaudra le coup d'écouter Motors. Alors on va écouter pour le moment l'homme qui l'a emporté. Il est allemand. Il est quadruple champion du monde. Il s'appelle Sébastien Vettel. C'est la 48e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1.
La course d'aujourd'hui était particulière. On a eu de la chance avec la virtual safety car. Dans l'ensemble, notre rythme était bon, mais pas assez bon pour pouvoir rivaliser avec les Mercedes à la régulière. Dans 2 semaines, pour la prochaine course, nous aurons des nouvelles pièces qui nous permettront sûrement de progresser. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi à saisir ce qu'il y avait à saisir. C'est super que ce soit la victoire. C'est la 2e année de suite pour moi ici. J'adore cet endroit. J'adore cette piste. Donc oui, on prend.
Et il confirme évidemment ce que tout pilote sait, tu le sais très bien Adrien, quand on gagne la piste est belle et la voiture est merveilleuse, hein, c'est le cas de le dire. Et pourtant, au départ, il se demandait s'il allait pouvoir prendre le pas sur la Mercedes Hamilton.
Mais je crois qu'il a la victoire modeste, Sébastien Vettel. Aujourd'hui, il sait qu'il a eu de la réussite, mais en même temps, il la savoure, il la prend.
Il était là, pas loin.
Au bon moment, et c'est des points très très importants, parce que c'est justement ces points-là, quand on est censé perdre et qu'on arrive à gagner, qui font la différence en fin de championnat. Il sait que son équipe va travailler dur pour peut-être rattraper le léger manque de performance en qualification et en course par rapport à la Mercedes. Mais honnêtement, c'est un bon début de saison pour Vettel, et ça montre que il faut de la chance aussi pour construire un championnat et pour gagner un championnat. Et aujourd'hui, ils l'ont eu.
Et puis, pour qu'il y ait un très beau vainqueur, il faut évidemment un très beau vaincu. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Lewis Hamilton. On l'a dit, c'est plus les circonstances qui l'ont battu que lui-même. On ne peut pas dire qu'il ait commis d'erreur, Lewis Hamilton, hein, vraiment. Là, on parle aussi d'un petit problème de stratégie du côté de l'équipe Mercedes. Enfin, là, maintenant, on essaie d'expliquer les choses en disant on aurait dû demander à Hamilton de prendre un peu plus d'écart, peut-être. Mais évidemment, on ne pouvait pas savoir qu'il y aurait par la suite une neutralisation. On était sur une stratégie de course, entre guillemets, normale. Écoutons ce que Lewis Hamilton a dit à Lucas Vinoy, Louis Hamar, Lucas Vinoy, ce sera pour un peu plus tard, à Louis Hamar, à l'issue de ce Grand Prix. Effectivement, il était déçu, c'est le moins qu'on puisse dire.
Je ne sais pas quoi dire, je ne saurais pas décrire ce que je ressens en ce moment. Je ne comprends pas ni pourquoi ni comment on en est arrivé là, mais je sais que j'ai perdu des points aujourd'hui. Fondamentalement, on s'est raté sur la stratégie, on était devant, on contrôlait, c'est une course qu'on ne pouvait pas perdre. Je vais tout de suite aller demander des explications à l'équipe, parce que ce n'est pas acceptable de perdre une course qu'on méritait de gagner.
Eh ben oui, on retrouve le winner, hein. C'est évident que lui aussi, il mesure effectivement tout ce qu'il a perdu. Ben, ce qu'il a perdu, je peux vous dire, si on prend le classement général provisoire, on ne peut plus provisoire du championnat du monde, alors qu'il reste 20 Grands Prix à disputer, donc on va pas s'énerver, hein. Il va se passer encore plein de choses. Vettel 25 points, évidemment. Hamilton 18 points, donc déjà un déficit de 7 points. Kimi Raikkonen 15 points, puisqu'il est troisième, on va en dire un mot de Kimi. Ricardo 12 points, et puis Alonso. Enfin, on va venir dans la deuxième partie de ce Motors pour vous parler des autres pilotes. En tout cas, on peut dire que là, oui, Lewis Hamilton a conscience d'avoir raté une belle occasion, c'est clair.
Raté une belle occasion, mais je pense que c'est la déception du moment, ouais. Qui parlait pour le pilote britannique. Ça va vite refroidir tout ça, et il le sait, hein, il a fait le maximum aujourd'hui. Il pouvait pas faire beaucoup mieux, mais bon, c'est un grand champion. Il déteste perdre, et c'est normal avec le job qu'il avait fait en qualification. Il avait vraiment assommé la concurrence, et le petit jeu aussi qu'il a joué en conférence de presse. On le redit avec Sébastien Vettel, il s'était un peu moqué de lui. Voilà, la roue tourne, et c'est exactement ce que Vettel disait hier en conférence de presse, et ça doit le frustrer un peu, c'est sûr.
Ah ben, c'est clair que là, de toute façon, il la voyait belle, hein, puisque au bout de 25 tours avant la neutralisation, il était en tête de ce Grand Prix. Il ne voyait pas vraiment. En plus, le virtuel safety car, il avait à ce moment-là 8 à 9 secondes, si mon souvenir est exact, d'avance sur Vettel. En tout cas, c'est ce qu'on estime avoir perdu, pour être plus précis, chez Mercedes. Je crois qu'il n'avait pas tant. Sur le terrain, il avait 4 à 5 secondes.
C'est Vettel qui était devant, et effectivement...
au moment de la neutralisation, hein, je voulais dire. Ouais, juste avant, quand on était en course normale, quoi.
Oui, bien sûr.
Ouais. Bon, de toute façon, c'est comme ça. C'est Vettel qui l'emporte, effectivement, avec une belle opportunité, un bel opportunisme. Et puis, je pense pas qu'on ait commis d'erreur chez Mercedes, mais ça fait partie du sport automobile. Et tu le sais mieux que personne, Adrien. Et pour qu'il y ait également un premier et un deuxième, j'ai dit qu'on dirait un mot de Raikkonen. Bah, c'est maintenant. Raikkonen avec des lunettes de soleil, une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles sur le podium. C'était quand même une image. On aurait dit Schtroumpf grognon, hein.
Oui, comme à son habitude, Kimi Raikkonen, mais même peut-être plus de déception aujourd'hui, parce que effectivement il a fait ce qu'il fallait, il a devancé son coéquipier en qualif,
10 millième, hein, c'était pas beaucoup
dès la première course de la saison. Il est prêt, il a l'air motivé comme jamais, et ça fait du bien en fait de voir qu'il n'est pas content, parce qu'on
sûr,
a besoin
d'une réaction de champion,
d'une réaction de sa part. On a pu par le passé se demander s'il s'en foutait pas un peu,
et parfois.
Et aujourd'hui c'est pas le cas. Il avait cette envie, il essayait d'attaquer Lewis Hamilton, et au final il a eu, comme Lewis Hamilton, pas de chance aujourd'hui, et c'est Vettel qui l'emporte.
Et puis il a clairement conscience que c'est peut-être sa dernière saison, hein, il faut oser le dire là. Cette fois, je crois quand même qu'on s'en rapproche, d'autant que chez Ferrari on va avoir d'autres solutions, on va en parler un petit peu plus tard. Vous êtes bien dans Motors sur RMC, la radio de la Formule 1 plus que jamais, diffuseur officiel du championnat du monde de Formule 1. On va vous parler du reste du paquet, et croyez-moi, il y en a eu du baston au milieu du paquet sur ce tracé de l'Albert Park à Melbourne. Vous restez avec nous.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC jusqu'à 14h. Motors, Jean Lecroix.
Allez, on y revient au mastic, comme dirait Vincent, j'aime bien son expression. On y revient dans sa deuxième partie de Motors. On vous a parlé de la lutte en tête, évidemment, du bras de fer, qui est déjà engagé, plus qu'engagé même, entre Vettel, qui l'a emporté cette fois-ci, Hamilton, qui a été battu, mais on l'a vu, plus pour des questions de circonstances. La revanche, eh bien, ce sera à Shakir, dans moins de deux semaines maintenant, pour le Grand Prix de Bahreïn. Je rappelle qu'RMC est le diffuseur officiel du championnat du monde de Formule 1, et qu'RMC est la radio officielle du Grand Prix de France de Formule 1. On va en parler tout à l'heure avec Adrien Tombé. On va revenir sur le reste du paquet. Et ça a été chaud, c'est le moins qu'on puisse dire, Adrien, puisque les Red Bull Renault s'étaient mises en évidence, et notamment celle de Verstappen, pendant les qualifications. Lui qui avait terminé quatrième des qualifs, avec une stratégie différente. Hein. On rappelle que en Q2, ils avaient pris les pneumatiques effectivement super soft et non pas les ultra soft. Alors on pensait une stratégie décalée, et puis finalement, Verstappen s'arrête au 21e tour, c'est-à-dire finalement avant Vettel, qui avait des pneumatiques ultra soft.
Allez, je vais me mouiller un peu sur les Red Bull. Je pense que ça va être, ils vont nous causer un peu de surprise. Je pense que ça va être peut-être la deuxième force de ce championnat. D'accord. Au vu de la qualification et au vu de la course, même si aujourd'hui ils ont fini derrière les Ferrari, respectivement Verstappen et Ricciardo. J'ai vu une qualification où Verstappen a réussi à être collé en fait en performance à Vettel. Ils étaient le deuxième, le troisième et le quatrième à un dixième. D'un dixième. Ils étaient collés.
Une 21-828, tu as raison de le rappeler, pour Raikkonen. Une 21-838 pour Vettel. Une 21-879. Voilà. On peut pas être plus près.
Donc 5 centièmes environ entre le derrière Sébastien Vettel. Et ça, tout ça en ayant une stratégie différente
en commettant
une erreur pour Verstappen. En course, on l'a vu attaquer à 100% dès le début. On connaît sa jeunesse, sa fougue, et on sait que même si c'est impossible, il va essayer. Donc c'était le cas aujourd'hui, c'était presque impossible de dépasser une autre voiture avec ses perturbations aérodynamiques sur ce circuit de Melbourne, et il a tout fait en partant à la faute à un moment donné. On sait maintenant qu'il a fait cette erreur parce que, ou en tout cas en partie parce que son fond plat était endommagé. Il était sorti un peu large sur un vibreur. Oui. Faut savoir que quand on endommage un fond plat ou un diffuseur, on perd des points d'aéro, c'est-à-dire qu'on perd de l'adhérence,
de la stabilité.
La voiture devient beaucoup plus difficile à conduire à la limite, et c'est plutôt une performance le fait d'être allé au bout de ce Grand Prix et finir dans cette position
au sixième rang.
Ouais. Voilà, avec Ricciardo qui à la fin faisait les meilleurs tours en course et qui mettait la pression sur Kimi Raikkonen. Donc je pense que la Red Bull est vraiment
on a parlé de Verstappen, on va parler de Ricciardo si tu veux bien. Ricciardo qui s'était qualifié cinquième normalement, hein, en temps, en chrono, et puis qui a été rétrogradé de trois places. Alors pour une histoire de drapeau rouge, il a ralenti brutalement, mais pas assez au gré de la direction de course. Enfin bon, il a pris trois places malheureusement, parti huitième, et finalement, comme toujours, Ricciardo, solide en course, il termine quatrième sur les talons de Raikkonen. Alors toujours pas de pilote australien sur le podium en Australie, malheureusement pour lui, mais une performance solide en course de Ricciardo.
Oui, c'est vrai, Jean-Luc, on parle de Verstappen beaucoup, mais en fait, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que Ricciardo, ça veut dire qu'ils sont tous les deux, ils sont différents. Ils sont pour moi des champions du monde en puissance, mais pour des raisons différentes. Ils sont tous les deux très complets et ils ont tous les deux leur point fort. Ricciardo, c'est vraiment la solidité, la constance, le rythme en course. Il fait très 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 rarement une erreur et aujourd'hui encore il est là
très solide.
À la fin il le voulait, ce podium, on l'a vraiment vu attaquer pour essayer d'aller doubler Kimi Raikkonen, mais voilà, la Red Bull était très performante, je pense, sur les relais, et c'est très difficile de juger aujourd'hui la performance de toute façon d'une voiture en course du fait de la difficulté de dépasser et de se rapprocher des autres.
Et il termine à 7 dixièmes seulement de la Ferrari de Raikkonen pour abonder dans ton sens. On va l'écouter justement, Daniel Ricciardo, le pilote australien, qui termine, on vous l'a dit, au pied du podium, ce qui est finalement une des places les plus difficiles. Hein. Quatrième, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, mais là, il n'est pas monté sur ce podium qu'il attend depuis si longtemps. On rappelle que Ricciardo n'a toujours pas reconduit son contrat avec Red Bull pour le moment. Comme on sait qu'il va y avoir du changement, peut-être chez Mercedes, mais certainement chez Ferrari, il se garde en réserve. Écoutez le pilote australien au micro de Louis Amar.
J'étais rapide à la fin. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de plus pour prendre la troisième place. La Virtual Safety Car m'a permis de revenir et de me battre en tête de la course, donc merci à elle. Évidemment, j'aurais adoré monter sur ce podium. Mais pour vous dire la vérité, je ne suis pas trop déçu non plus. Si on me demandait, est-ce que tu préfères être troisième avec de la chance et une voiture qui ne va pas très vite, ou être quatrième mais avec un bon rythme, je choisirais sans doute la deuxième option. Et si notre vitesse d'aujourd'hui est celle qu'on a toute la saison, ça se présente bien.
We're looking good.
Et toujours optimiste en plus, Ricardo. C'est ça, c'est un des types les plus sympas du paddock, il faut le rappeler aussi. C'est-à-dire qu'il est accessible, il est de bonne humeur.
Naturel.
Il fait pas la tronche, contrairement... Et c'est naturel, voilà, il se force pas.
Oui, oui, c'est naturel, il dit ce qu'il pense. Hein. C'est pas de l'optimisme, ouais. c'est vraiment... voilà, quand il est pas content, il le dit. Quand il est content, il le dit. Et il est très constructif dans son approche. Et c'est aussi pour ça qu'il est bon.
Alors, on continue à dérouler ce classement. Si vous n'étiez pas là ce matin, et c'est dommage hein, d'avoir raté ce premier Grand Prix, mais vous avez certainement vu les résultats. Victoire de Vettel, on vous le rappelle, 48e de sa carrière, la première évidemment de la saison. Hamilton sur ses talons, mais quelque part piégé par une neutralisation. Raikkonen 3e, juste devant Ricciardo, les deux hommes qui ont bataillé pendant une bonne quinzaine de tours dans la deuxième partie. Et puis après, faut aller un petit peu plus loin. C'est vrai qu'il faut une vingtaine de secondes pour retrouver Fernando Alonso. Alors, du côté d'Alonso, Adrien, il l'avait dit après les essais, il a dit « Attention, on peut prendre des gros points ». Et il l'a fait. Alors lui aussi a été un petit peu favorisé, on va oser le dire, par la neutralisation et le regroupement. Mais quand même, ça veut dire que la McLaren motorisée par Renault fait le boulot.
Oui, effectivement. Je pense que hier, ça a été un peu plus compliqué que prévu en qualification. Peut-être que les deux pilotes n'ont pas réussi à mettre tous les secteurs ensemble parce qu'on les voyait dans le top 10.
Qualifié dixième.
Voilà. On le voyait dans le top 10. Il était onzième, en fait, avant la pénalité de Valtteri Bottas. Oui. Et effectivement, on les attendait peut-être dans le top 10 en qualif. La course a été très solide et ça fait du bien de voir que McLaren, avec ce moteur Renault, est de retour pour jouer au moins, au moins, allez, le top 5 ou le top. Top 7, top 8, parce qu'il y a eu quand même les As qui ont été éliminés pendant cette course. Faut pas les oublier.
Surtout pas.
Et même les Renault. Ça fait plaisir de les voir dans les points.
Absolument. Alors, on rappelle les forces en présence avec évidemment 7 victoires de Ferrari et ces deux pilotes Ferrari sur le podium. D'ailleurs, je peux vous dire qu'au classement général provisoire du championnat du monde, c'est la très très belle opération pour la Scuderia Ferrari puisqu'on totalise 40 points, ce qui est énorme. Et alors que chez Mercedes, évidemment, avec un Hamilton deuxième et surtout un Bottas qui termine très loin, 8e seulement, on n'a que 22 points, c'est un gouffre hein, quand même, 18 points, juste devant Red Bull qu'on évoquait à l'instant, 20 points, soit la moitié de Ferrari. Et puis pour parler de Mercedes à l'instant, puisque on retrouve Van Dorn également dans les points, 9e, Van Dorn, tiens justement, je vous propose de l'écouter, puisque Louis Amar a pu le rencontrer, à propos justement du feeling concernant le rendement de sa Ferrari, parce que Fernando Alonso connaît le talent du double champion du monde, mais Van Dorn n'a pas démérité du tout.
Oui, je pense une très très bonne course pour l'équipe d'avoir les deux voitures dans les points. Un très bon début de saison ou un gros contraste avec l'an dernier, je dirais. Voilà, je pense que notre rythme en course, il était plutôt positif. On pouvait vraiment se battre avec des autres gens. Il y avait vraiment une course à faire, on dirait. Et voilà, un feeling positif après ce premier Grand Prix.
Et voilà le pilote belge Van Dorn, je fais attention, et évidemment avec sa McLaren Renault et pas sa Ferrari, là c'est peut-être on commence à pédaler dans la spoule, mais on va le terminer ce moteur, c'est dans de bonnes conditions, je peux vous dire, il n'y a pas de problème. Alors on a écouté les deux pilotes de ce milieu de tableau, j'allais dire, Max Verstappen peut se montrer un petit peu déçu à la fois, puisque on parlait du tête à queue, et tu l'expliquais très bien Adrien, en disant qu'il avait perdu une partie de son appui aéro, mais bon, pas capable, entre guillemets, de prendre le dessus sur la McLaren Renault qui le précède avec un moteur identique hein, maintenant. C'est ça qui vient, on a une rangée de 4 moteurs Renault. Ça, c'est plutôt bien pour le motoriste français aussi.
C'est très bien, et puis je pense que c'est en ayant comme ça beaucoup de monoplaces dans les points à jouer les avant-postes qu'ils vont pouvoir progresser, continuer à développer le moteur et continuer de combler maintenant le léger écart peut-être qui les sépare de Mercedes. Je pense qu'au niveau du moteur d'ailleurs, Renault maintenant est au niveau de Ferrari. Alors, je pense pas être trop risqué en disant ça.
Je pense que tu y es.
Mais c'est clair que pour Verstappen, c'était compliqué de dépasser du coup Fernando Alonso, qui a une McLaren qui réussit, je pense aérodynamiquement aussi. Donc forcément, la vitesse de pointe, même si la Red Bull l'est également, c'était compliqué de dépasser.
Par parenthèse, et c'est une petite pique à nos amis de Red Bull qui adorent dire on a le meilleur châssis du plateau. Christian Horner est vraiment, c'est de l'autosuggestion. Ben non les gars, parce que là vous avez le même moteur que les autres, et puis bon, c'est performance remarquable, hein, mais vous n'êtes pas capable de dépasser une McLaren. Et puis on y arrive, la Renault, alors pour le coup, de Nico Hülkenberg est derrière. Donc ça veut dire que avec un bon moteur et de bons châssis, ben on a des performances relativement identiques.
Oui, il faudra attendre de toute façon d'autres circuits un peu différents pour vraiment tirer des conclusions. On sait que les jugements de valeur en Formule 1, c'est compliqué de pouvoir séparer les critères les caractéristiques d'une voiture, son châssis, son moteur, son aérodynamisme. C'est compliqué, mais c'est sûr que je pense que Christian Horner, quand il dit ça, c'est plus de la démagogie et de la politique.
Puis de toute façon, oui, à l'époque, ça a toujours été pour mettre la pression sur Renault, puisqu'une nouvelle fois, allez, on va vous dévoiler quelque chose, mais je crois qu'on en a déjà parlé sur cette antenne, je vais vous le dire, c'est qu'évidemment, avec le moteur Honda qui propulse la Toro Rosso, vous m'avez bien compris, si ça se passe bien, bon malheureusement on va y venir tout à l'heure avec la casse du moteur de Pierre Gasly sur la Toro Rosso, mais si ça se passait bien avec Honda et que le contrat avec Renault n'est pas reconduit, bah vous me voyez venir, évidemment c'est le Honda qu'on retrouverait derrière les Red Bull, c'est une possibilité en tout cas. On continue à dérouler, Adrien, avec le classement. On a dit, il y a eu un paquet de moteurs Honda en bagarre, emmené par Alonso, McLaren Honda 5e, Verstappen, Red Bull,
McLaren Renault,
on va y arriver. Décidément. Hülkenberg, là, c'est facile. Renault. Bon, il n'y a pas de problème. Valtteri Bottas. Alors, Valtteri Bottas, il a buté. Il faut, je crois, y revenir un petit peu. Il a invoqué également un certain capteur de température qui aurait perturbé le fonctionnement global de son moteur. On rappelle d'ailleurs une nouvelle fois, mais vous le savez, qu'il n'y a que 3 moteurs pour l'ensemble de la saison en Formule 1. 21 Grands Prix. Ça veut dire que chaque moteur doit normalement faire 7 Grands Prix, ce qui est énorme. 7 week-ends.
C'était compliqué pour Valtteri Bottas de partir comme ça 15e. Il a passé sa vie aujourd'hui à suivre les autres, à être dans les perturbations aérodynamiques, à être dans un air qui n'est pas frais, et du coup à ne pas pouvoir rafraîchir son moteur autant que les autres. Donc c'est normal quelque part qu'il y ait eu des petits soucis, puisqu'on a vu Lewis Hamilton avoir lui aussi une surchauffe alors qu'il a passé quelques tours derrière une seule monoplace.
Absolument. Donc et là, il y en avait 3.
Voilà, effectivement. Ouais. Bottas, il a passé son temps à essayer de dépasser. Il a fait quelques dépassements, les rares dépassements qu'on a vus aujourd'hui. C'est un week-end difficile pour lui, on peut pas le cacher. Mais il a quand même ramené des points. Il est à l'arrivée de cette course. Il faut lui laisser. On va pas tirer des conclusions.
Pas juger, mais il a la pression
tout de suite. Mais il a la pression. Mais il se la met, je pense, tout seul. On a lu les déclarations de Toto Wolff qui essayait d'ailleurs de lui enlever cette pression, parce qu'il sait que partir comme ça sur le premier Grand Prix de la saison avec tout le monde qui commence à lui tirer à boulet rouge dessus, c'est compliqué.
Et puis il y a des vautours qui le guettent, ce baquet chez Mercedes, et on le comprend très très bien. On a déjà évoqué Stoffel Vandoorne il y a un instant, le pilote belge de McLaren, donc qui se classe 9e. Un mot de Carlos Sainz. Alors lui, il a eu une mésaventure avec sa Renault, qui termine donc derrière Nico Hülkenberg. Il était malade, il a dit qu'il avait failli vomir, là, il en a parlé à son équipe. Alors tu peux nous raconter ce qui s'est passé, Adri, en détail, parce que c'est toujours un peu curieux d'avoir un pilote de Formule 1 malade dans le baquet sa monoplace.
Alors des gros soucis apparemment d'estomac pour Carlos Sainz. En fait, ce qui s'est passé, il l'a expliqué après coup, son espèce de camelback, vous savez qu'on embarque un système pour pouvoir boire avec une petite pipette depuis le début du Grand Prix. On appuie sur un bouton pour que l'eau qu'on n'ait pas à aspirer, en fait, donc l'eau arrive toute seule, et y a eu un souci, c'est l'eau se déversait continuellement. Il a été obligé d'en boire trop, et du coup il s'est retrouvé avec l'estomac plein d'eau,
ballonné.
Léger en Formule 1, vous savez, vous êtes en plus attaché avec des ceintures serrées au maximum, l'estomac qui va de droite et de gauche, la respiration.
T'as déjà connu ça, toi, dans
j'ai déjà connu ça, peut-être pas aussi fort que Carlos Sainz, j'en ai jamais dû en parler, en tout cas
cas, j'ai toujours
tu
eu assez
pour
honte
toi,
pour ne pas en parler à la radio. mais effectivement, c'est des choses qui arrivent et ça devait être très inconfortable pour Carlos Sainz en fin de course. Mais bon, il a réussi à ramener des points.
Il a sauvé son point. C'est déjà le plus important, effectivement. Alors qu'il avait du monde derrière et on va y venir dans un instant. Il avait Pérez et Ocon. Hein. Surtout Pérez, d'ailleurs, qui essayait de l'attaquer avec sa Force India, pas au top de sa forme. On va y revenir dans un instant. On est bien dans Motors sur RMC. RMC, vous le savez, radio officielle du Grand Prix de France de F1. On va l'aborder maintenant, la partie consacrée aux Français. On va vous parler des pilotes français, un peu malchanceux, il faut bien le dire, globalement, dans ce Grand Prix. Et puis RMC, évidemment, c'est le diffuseur officiel du championnat du monde de Formule 1. Et vous restez avec nous.
RMC Motors. RMC jusqu'à 14h. Motors. Jean Lecroix.
Et oui, on attaque nous aussi la dernière ligne droite de Motors. Elle va être bien garnie, vous allez le voir. Et elle va être bien garnie par les Français.
RMC Motors. Le French's Corner.
Eh ben voilà, elle est pas belle celle-là. On va parler des pilotes français, effectivement, Adrien. On va voir dans quelques minutes maintenant Gilles Dufaigneux, qui est le directeur général du Grand Prix de France. Donc le grand ordonnateur, on va dire celui qui travaille au quotidien avec Stéphane Clerc, hein, le patron du circuit Paul Ricard. On va avoir les dernières nouvelles de ce Grand Prix de France. C'est dans moins de 3 mois, ou à peine 3 mois maintenant. Et puis on va parler des pilotes français. Alors on va commencer évidemment par Romain Grosjean. Romain Grosjean bien qualifié avec sa Haas Ferrari. Sixième, juste derrière son équipier Kevin Magnussen. Et puis malheureusement, les deux hommes qui se retirent. Alors ça a été très très dur à vivre. Hein. D'abord l'arrêt de Magnussen, qui ressort des stands et qui s'arrête. On dit tiens, problème technique. Et deux tours après, la même chose pour Romain Grosjean.
La grosse déception chez Haas et pour notre Français Romain Grosjean. On a d'abord cru à une panne moteur pour Kevin Magnussen. On n'a pas très bien compris et avec le recul en fait c'est le même souci que sur la monoplace de Romain Grosjean lors de l'arrêt au stand, une difficulté à refixer une des roues avant. Et effectivement, on ne sait pas encore quel est le problème, si c'est un problème d'écrou, si c'est un problème de pistolet, vous savez, ces guns qu'on utilise pour l'arrêt au stand. Mais en tout cas, la coïncidence est trop grande pour que ça soit le fait du hasard. Et on va devoir se pencher chez Haas pour trouver les raisons. En tout cas, c'est beaucoup de points lâchés aujourd'hui.
Ah oui.
Beaucoup d'argent aussi pour l'écurie.
C'est clair.
Parce qu'on sait qu'à la fin du championnat, ça compte. Et avec un bon début de saison comme ça, on espère vraiment que l'écurie va être capable de continuer sur cette lancée, que c'est pas une opportunité rare manquée aujourd'hui.
Et oui, parce qu'on sentait ces Haas très performantes depuis les essais à Barcelone, qui étaient un peu atypiques, on l'a dit, hein, à cause de la météo, qui était effectivement difficile avec des températures très basses. Mais là, on a eu confirmation lors des qualifications, dans des conditions normales, on va dire, que cette Haas à moteur Ferrari, parce que ça, c'est l'évolution de cette année, avec toute une mécanique Ferrari et boîte de vitesse, transmission, etc., qui est vraiment up to date, qui est vraiment de 2018, et ça fait une sacrée différence, Adrien.
Oui, une vraie différence. Et puis on sait qu'on a bénéficié quand même chez Haas. On n'a pas copié Ferrari, mais forcément on a beaucoup d'éléments qui sont communs. Donc on peut se dire qu'elle est très proche de la Ferrari de 2017, cette monoplace, et ça a été confirmé ce week-end. Elle est aussi très fiable, parce qu'aujourd'hui c'est pas un problème de fiabilité, c'est un problème technique, mais c'est pas un problème de fiabilité purement et simplement. Ça va être résolu, je pense, très vite.
C'est évident. En tout cas, on va trouver les raisons. Est-ce que c'est un problème de pistolet pneumatique? Est-ce que c'est un problème de verrouillage de roue? Ou bien, en tout cas, les mécanos étaient vraiment effondrés. On a vu Romain, quand il a regagné la zone des stands, essayer de les consoler lui-même. Enfin, lui aussi était très, très, très déçu. Hein. Malheureusement, donc, une course à oublier pour l'équipe Haas dans son ensemble, alors qu'il y avait des belles capacités en termes
et
de
puis,
performance.
Il n'a plus les problèmes de frein dont on entendait parler l'année dernière. Après, c'est pas un circuit de gros freinage, mais il y a quand même des freinages en appui. Puis avec des bosses et effectivement, s'il n'a pas connu de problème de frein pour ce premier Grand Prix,
c'est déjà une bonne nouvelle, hein, a priori. Alors voilà, la bonne nouvelle aussi, c'est que nous avons avec nous Gilles Dufaigneux, le directeur général du Grand Prix de France dans Motors sur AMC. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Bonjour l'équipe.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct aujourd'hui dans Motors. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, on est pile à 3 mois de ce Grand Prix de France dont le retour est pour le moins attendu, hein, depuis 10 ans sur le circuit Paul Ricard. Quelles sont les perspectives, où en sont les réservations? Donnez-nous un état des lieux en quelque sorte.
Écoutez, les choses se préparent d'abord très bien sur le circuit lui-même. puisque le revêtement a été refait, les tribunes sont en train d'être montées. Et effectivement, en termes de vente, bah, écoutez, on a des très très belles perspectives, puisqu'on a vendu d'ores et déjà entre 65 et 70% des places disponibles. Il en reste hein, dans toutes les catégories, en enceinte générale, dans les trois catégories de tribunes. Enfin, le rythme de vente est très soutenu et finalement, c'est le meilleur des signes.
Bon, ben ça, c'est génial. Mais effectivement, il y a un engouement. Hein. De toute façon, on en parlait ici sur l'antenne de RMC encore ce matin dans les grandes gueules du sport avec plusieurs sportifs de très haut niveau qui sont consultants pour RMC. Et tout le monde se réjouit évidemment de ce retour du Grand Prix qui était attendu par tout le monde. Au niveau des travaux de piste, vous l'avez évoqué effectivement, c'est Stéphane Clerc hein, qui est le patron de la piste. Je sais que vous travaillez la main dans la main avec lui. Qu'est-ce qu'il y a comme amélioration précise pour la venue de la Formule 1, pour le retour, on peut dire, de la Formule 1, puisque le dernier Grand Prix de F1, si mon souvenir est exact, c'était 90 sur le circuit Paul Ricard.
Écoutez, oui, de gros travaux, puisque l'asphalte a été refaite, hein, avec d'ailleurs un effet scénique visuel tout à fait formidable. Les images du circuit en configuration F1 sont formidables. Mais effectivement, trois virages ont été également redessinés pour permettre un meilleur dépassement, beaucoup plus de spectacles sur la piste, et on l'a vu en Australie cette nuit. Je pense que les pilotes sont prêts là aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis une chicane nord aménagée qui permettra là aussi beaucoup de spectacles avec des tribunes qui sont positionnées en bordure de la chicane pour un spectacle maximum. On aura avec un écrin complètement nouveau, parce que vous savez, sur le Ricard, il y avait 5000 places de tribune. Voilà, il y en a 51 000 places cette année.
Ah oui.
Donc il va y avoir vraiment là aussi un véritable show sur la piste et des conditions formidables pour le voir.
Ouais, on a multiplié par 10 donc la capacité d'accueil au niveau des tribunes, ce qui était très très important. Ben, on y a tous vécu de très belles et très grandes émotions hein, sur ce tracé Paul Ricard, je peux vous dire, autant d'ailleurs à moto à l'époque qu'en Formule 1. Un mot, si vous le voulez bien, aussi sur les accès au circuit, parce qu'on sait que c'est sur le plateau du Castellet, bien sûr, ce tracé. Je pense que c'est un domaine que vous allez travailler, puisqu'on attend quoi, 65, 70 000 spectateurs, c'est votre objectif?
Écoutez, on est sur une jauge volontairement un peu conservatrice hein, de 65 000 places pour la première édition. Je vous rappelle qu'on a signé pour 5 éditions, donc on fera peut-être plus les années prochaines. Enfin, on voulait faire les choses dans de très bonnes conditions pour la première année. Et on travaille depuis près d'un an maintenant avec tous les services dédiés, services de l'État, la gendarmerie, les services du département, les services des routes, les pompiers, etc. Et bien évidemment les équipes du circuit Paul Ricard, pour effectivement favoriser au maximum l'accès au circuit. On a dessiné effectivement un plan d'accès extrêmement performant, novateur, hein, trois accès dédiés, et puis surtout une grande nouveauté, une sorte de périphérique, un circulaire en sens unique autour du circuit pour pouvoir, une fois accédé, une fois sur place, pouvoir là aussi se diriger en tout confort et rapidement dans les zones de parking. Donc je pense un plan de mobilité extrêmement innovant, et qui, j'espère, répondra aux attentes des spectateurs qui viendront nous rejoindre.
Bon, ben ça, c'est déjà une super nouvelle, effectivement, parce qu'on sait que l'accès à certains circuits traditionnels, hein, je vais vous parler de Silverstone, mais vous connaissez sûrement comme moi, là, c'est quelque chose. Et pourtant, c'est super, ça, si vous améliorez tout ça. Et puis, on parle aussi de l'expérience spectateur. Je sais que ça n'est pas qu'un mot, parce que j'en ai parlé avec Stéphane Clerc aussi, que je connais bien, et qu'on va prendre sur cette antenne également un petit peu plus tard. Je crois que vous travaillez également sur cet aspect accueil du spectateur, mais plus qu'accueil, c'est lui faire vivre des choses exceptionnelles pendant ces 4 jours, on peut dire.
C'est vraiment l'objectif. Hein. Je pense que ça tombe bien parce que, comme vous le disiez, on revient sur le grand barnum de la Formule 1, un des 21 Grands Prix de la saison 2018. Et on arrive en même temps qu'un nouveau propriétaire, la FOM, le groupe Liberty, qui effectivement a axé son développement stratégique sur une expérience spectateur complètement rénovée. Et donc, on a sur les 4 jours, comme vous le disiez, un programme tout à fait passionnant sur vendredi, samedi, dimanche essentiellement, des shows aériens, une fête foraine, un village provençal qui permettra là aussi à ceux qui connaissent pas cette formidable région de découvrir là aussi notre savoir-faire, nos produits. Et puis après le Grand Prix, en conclusion d'un formidable week-end, j'espère-t-on, un grand concert là aussi gratuit pour ceux qui auront acheté un pass 3 jours ou un pass dimanche. Voilà, donc je pense effectivement la volonté de faire un spectacle de 3 jours avec un point d'orgue qui est bien évidemment le Grand Prix le dimanche à 16h10.
Eh ben ça c'est génial. On rappelle qu'évidemment RMC est la radio officielle du Grand Prix de France de Formule 1. Je peux vous dire qu'on en est ravis. On fera également gagner des places à nos auditeurs. Donc pour ce grand événement qui est le retour de la Formule 1 en France sur le circuit Paul Ricard. Et puis il y aura un dispositif exceptionnel pendant toute la semaine malgré le championnat du monde de foot. Et on va privilégier les deux événements, je peux vous le dire, avec les grandes gueules du sport en direct du circuit Paul Ricard le samedi et le dimanche et toute la journée du dimanche. Ce sera la spéciale Grand Prix de France. Merci beaucoup. Gilles Defeigneux, donc directeur général du Grand Prix, d'avoir été avec moi dans Motors aujourd'hui, et puis on prendra régulièrement des nouvelles jusqu'au Grand Prix.
Merci à vous, à très bientôt.
Merci, au revoir. Voilà, ça fait toujours plaisir, hein, même ça fait vraiment très plaisir parce que on finissait par ne plus y croire, Adrien, ce retour du Grand Prix de France. Ça faisait 10 ans depuis le dernier Grand Prix en 2008 à Magny-Cours en l'occurrence, et on rappelle que Magny-Cours avait accueilli le Grand Prix de 91 à 2008 et le Paul Ricard, bah c'était les grandes années 70-80, les batailles extraordinaires qu'on y avait vues. Je crois que le tracé, notamment les S de la Véry, que tu connais particulièrement bien, qui sont des courbes à très haute vitesse, ont été très bien retravaillées.
Oui, dans tous les cas, c'est un endroit fabuleux, le Paul Ricard rempli d'histoire, et pour ce retour de la F1 en France, enfin, c'était nécessaire.
Ah oui. C'était un manque absolu.
C'était une hérésie qu'il n'y ait pas de Grand Prix de France, et le fait de avoir ce circuit qui est quand même maintenant aujourd'hui tellement beau et l'endroit est aussi magnifique. Ça va être fin juin, probablement beaucoup de soleil, on en a toute l'année dans le sud de la France.
On espère, là, oui.
J'habite pas trop loin et effectivement c'est génial pour le sport automobile français.
Alors Adrien, on va parler des pilotes français. On a parlé de Romain Grosjean avec de beaux espoirs, déçu malheureusement pour des raisons mécaniques, mais ça va revenir, hein, la performance est là. Esteban Ocon, alors il termine 12e, c'est vrai que là c'est une déception, soyons clairs, pour lui qui a terminé tellement de fois dans les points, mais je dirais que c'est pas de sa faute, là c'est le niveau des Force India Mercedes qui est nettement en retrait malgré un nouveau package aéro. D'ailleurs son équipier Perez, bon, ce qui est moins bien c'est qu'il est juste devant lui, mais on espère qu'on va retrouver de la performance du côté d'Esteban.
J'en suis pas très fier, mais j'avais émis des doutes lors d'un Motors d'avant saison sur la Force India. Le challenge en fait est compliqué parce que c'était une des voitures les plus performantes l'année dernière après les écuries de pointe, et effectivement c'est plus facile de se prendre les pieds dans le tapis d'une saison sur l'autre quand on a une voiture qui est au maximum de son potentiel. On avait mis effectivement tout bout à bout, tout ensemble, et là semble-t-il on a peut-être, alors espérons que c'est peut-être pas péché de travail, peut-être qu'on a amené toutes les pièces ici en Australie et qu'on n'a pas réussi à les faire fonctionner.
Allez, voilà, les exploiter correctement.
Voilà, peut-être que l'exploitation faisait défaut, c'est l'espérance que j'ai, mais sinon effectivement le rapprochement des autres écuries ne joue pas en leur faveur.
On va écouter justement Esteban Ocon au micro de Louis Amar parler de ce Grand Prix difficile pour lui.
Bon, un Grand Prix difficile, mais mieux que la qualif, je dirais. On avait une meilleure vitesse qu'en qualif, ce qui est l'important à retenir. Bon voilà, c'est comme ça, il faudra revenir plus fort la prochaine. L'année dernière, on n'était pas très bien non plus. Certes, on est pire cette année, mais voilà, je pense qu'on peut quand même revenir dans la saison et tout peut vite tourner en Formule 1.
Voilà, Esteban Ocon, donc 8e de ce 12e pardon, de ce Grand Prix d'Australie. Et puis on va écouter Charles Leclerc. Alors lui, il est plutôt content, et pourtant, il est classé derrière, juste derrière justement, il est 13e. C'était le premier Grand Prix de Charles Leclerc qui pilote pour Sauber.
Je pense que ça a vraiment été une hyper bonne course. Après, la seule chose frustrante en F1, c'est qu'on finit 13e sans points. Mais bon, après, du point de vue boulot de l'équipe et de moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis hyper, hyper content. Je pense que c'est une des plus belles courses que j'ai jamais faites de ma carrière même. Mais bon, c'est vrai que c'est frustrant parce qu'à la fin, on finit que 13e, mais bon, ça fait partie du jeu. Et donc voilà, il faudra bosser pour essayer de s'améliorer. Mais je pense qu'il y a énormément de positifs à prendre de cette course. Je suis quand même très content du boulot qu'on a fait aujourd'hui.
Eh ben ça fait plaisir d'entendre un mot de Pierre Gasly avant que tu me donnes ton sentiment sur Charles. Pierre, évidemment, on l'a pas vu beaucoup, hein, puisqu'il y a eu une casse mécanique là pour le coup du moteur Honda, alors qu'il n'y avait pas eu de problème pendant tous les essais. Bon, espérons que ce sera pas le prélude à un reste de saison difficile. On revient sur Charles Leclerc que tu connais bien, et c'est vrai que c'est super d'avoir été au bout de son premier Grand Prix.
Il n'y a pas grand chose à dire sur le boulot de Charles ce week-end. Il a été devancé par son coéquipier légèrement en qualification, mais en course, Ericsson a abandonné et Charles fait une course très solide. Il a a dépassé quelques voitures pendant cette course sur la piste, comme il le dit, et sa satisfaction personnelle fait plaisir à entendre.
Super, merci beaucoup Adrien d'avoir été avec merci moi Jacques. Dans ce débriefing du Grand Prix d'Australie de Formule 1, le premier de la saison qu'on a vécu ensemble, et c'était un vrai bonheur.